Quatrième partie. Les tempêtes illuminent. Dalinar, Kaladin, Adoline, Navani. Chapitre 52. Une route vers le soleil. Je me dresse au-dessus du corps d'un frère. Je pleure. Est-ce là son sang ou le mien? Qu'avons-nous fait? Daté de Vevanev 1173. 107 secondes avant la mort. Sujet, un marin Veden sans emploi. Père, dit Adoline en faisant les 100 pas dans le salon de Dalinar. C'est totalement dément.
Ce qui me semble approprié, répondit sèchement Dalinar, puisqu'il semblerait que je le sois aussi.
Je n'ai jamais affirmé que vous étiez fou.
En fait, commenta Renarin, je crois que si.
Adeline lança un coup d'œil furtif à son frère. Renarin se tenait debout près du foyer, inspectant le nouveau fabrial installé là quelques jours plus tôt. Le rubis infusé, enchâssé dans un cadre de métal, luisait doucement et dégageait une agréable chaleur. C'était pratique, bien que l'absence de feu crépitant donne à Adoline un sentiment d'anomalie. Tous trois étaient seuls dans le salon de Dalinar, où ils attendaient la venue de la tempête majeure du jour. Une semaine s'était écoulée depuis que Dalinar avait informé ses fils de son intention de renoncer au titre de haut-prince. Le père d'Adoline était assis dans l'un de ses fauteuils à dossier haut, stoïque, main jointe devant lui. Les camps de guerre ignoraient encore sa décision. Les héros soient loués. Mais il comptait faire rapidement cette annonce. Peut-être lors du festin de ce soir.
« Bon, très bien, » dit Adeline. « Peut-être que je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. Ou du moins, je ne pensais pas que ça aurait cet effet sur vous. »
« Nous avons eu cette discussion la semaine dernière, Adeline, » dit doucement Dalinar.
« Oui, et vous m'avez promis de réfléchir à votre décision. »«
Je l'ai fait. Ma résolution n'a pas faibli. » Adeline continua à faire des 100 pas. Renarin se redressa bien droit et le regarda s'éloigner d'un pas furieux.
« Quel idiot je suis !» se dit Adeline. « Évidemment que père allait faire ça. J'aurais dû m'en douter. »«
Écoutez, » dit Adeline, « ce n'est pas parce que vous avez quelques problèmes que vous devez abdiquer. » Adeline, nos ennemis vont se servir de ma faiblesse contre nous. En fait, tu crois qu'ils le font déjà. Si je ne renonce pas dès maintenant à la principauté, les choses pourraient devenir nettement pires qu'elles ne le sont actuellement.
Mais je ne veux pas devenir haut prince, se plaignit Adeline. Pas pour l'instant, du moins.
Quand il s'agit d'autorité, mon fils, ce que nous voulons est souvent secondaire. Je crois que trop peu de gens parmi l'élite Aleti comprennent ce fait.
Et qu'est-ce qui va vous arriver? Demanda Adeline, angoissée.
Il s'arrêta et se tourna vers son père. Dalinar était si ferme, même assis là, à envisager sa propre folie. Main jointe devant lui, vêtu d'un uniforme amidonné avec un manteau du bleu des collines, les tempes grisonnantes. Ses mains étaient épaisses et calleuses, son expression résolue. Dalinar prenait une décision et s'y tenait, sans jamais faiblir ni en débattre. Qu'il soit fou ou non, il était ce dont Aletkar avait besoin. Et Adeline avait, dans sa hâte, fait ce dont aucun guerrier n'avait jamais été capable sur le champ de bataille. Trancher les jambes de Dalinar Kolin sous lui et le renvoyer vaincu.
« Ô père des tempêtes !» se dit Adeline, l'estomac noué de douleur. « Jezerezé, Kelek et Ishi, héros tout-puissants, faites que je trouve un moyen de régler tout ça, je vous en prie. »
« Je vais retourner en Aletkar, » déclara Dalinar. Même si je déteste laisser notre armée ici avec un porte-éclat en moins. Est-ce que je pourrais... Mais non, je ne pourrais pas les abandonner.
Bien sûr que non, répondit Adeline, atterrée. Un porte-éclat? Renoncer à ses éclats? Ça ne se produisait presque jamais, à moins que le porteur ne soit trop faible et maladif pour s'en servir.
Dalinar hocha la tête.
Je redoute depuis longtemps que notre patrie soit en danger, à présent que chaque porte-éclat sans exception se bat ici dans les plaines. Eh bien, peut-être que ce changement de vent est une bénédiction. Je vais retourner à Collinard aider la reine, me rendre utile en repoussant les incursions frontalières. Peut-être que les Réchis et les Védènes seront moins susceptibles de nous attaquer, s'ils savent qu'ils affrontent un porte-éclat pleinement équipé.
C'est possible, répondit Adeline. Mais ils pourraient aussi surenchérir et se mettre à envoyer leurs propres porte-éclats lors des attaques. Cette idée sembla inquiéter son père. Jacques Évède était le seul autre royaume de Rochard à posséder un nombre conséquent d'éclats, presque autant qu'Aletkar. Il n'y avait pas eu de guerre directe entre eux depuis des siècles. Aletkar avait été trop morcelé, et Jacques Évède ne valait guère mieux. Mais si les deux royaumes s'affrontaient en force, ce serait une guerre sans équivalent depuis l'époque de la hiérocratie. Le tonnerre lointain gronda à l'extérieur, et Adeline se retourna vivement vers Dalinar. Son père demeura dans son fauteuil, regardant fixement vers l'ouest, à l'opposé des tempêtes.
Nous poursuivrons cette discussion plus tard, dit Dalinar. Pour l'heure, tu ferais mieux de m'attacher les bras au fauteuil.
Adeline grimaça, mais obéit sans se plaindre. Dalinar cligna des yeux et regarda autour de lui. Il se trouvait sur les remparts d'une forteresse dotée d'un seul mur, lequel était abrupt et droit, bâti de grands blocs de pierre d'un rouge profond. Il était construit par-dessus une crevasse du côté soulevant d'une haute formation rocheuse, comme une feuille humide collée sur une fente d'un rocher. Ces visions paraissent tellement réelles, songea Dalinar en regardant la lance qu'il tenait dans la main, avant de baisser les yeux vers son uniforme archaïque, jupe de tissu et gilet de cuir. Il avait du mal à se rappeler qu'il était en réalité assis dans son fauteuil, les bras attachés. Il ne sentait pas les cordes, n'entendait pas la tempête majeure. Il envisagea d'attendre la fin de la vision sans rien faire. Si ce n'était pas réel, pourquoi devrait-il y participer? Mais il ne croyait pas complètement, ne pouvait pas croire complètement qu'il provoquait ses visions lui-même. Sa décision d'abdiquer en faveur d'Adeline était motivée par ses doutes. Était-il fou? Se trompait-il dans son interprétation? À tout le moins, il ne pouvait plus se faire confiance. Il ignorait ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Dans une telle situation, un homme devait renoncer à son autorité et démêler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, il avait le sentiment de devoir vivre ses visions, et non pas les ignorer. Une partie désespérée de lui-même comptait toujours trouver une solution avant de devoir abdiquer formellement. Il ne laissait pas cette partie prendre trop d'ascendant. Un homme devait savoir faire le nécessaire. Mais Dalinar lui accorderait au moins cette faveur. Il allait traiter cette vision comme réelle tant qu'il en faisait partie. S'il y avait des secrets à y découvrir, il ne les trouverait qu'en jouant le jeu. Il regarda autour de lui. Que lui montrait-on cette fois? Et pourquoi? La tête de sa lance était faite d'un acier solide, bien que son casque semble de bronze. L'un des six hommes qui l'accompagnaient sur le rempart portait un plastron de bronze. Deux autres avaient des uniformes de cuir lacérés et rapiécés à grossière couture. Les autres hommes se prélassaient, regardant distraitement par-dessus le rempart. « Ils sont de garde », se dit Dalinar en s'avançant pour balayer du regard le paysage extérieur. Cette formation rocheuse se trouvait au bout d'une plaine immense, la situation parfaite pour une forteresse. Aucune armée ne pourrait approcher sans être vue bien avant son arrivée. L'air était assez froid pour que des amas de glace s'accrochent à la pierre dans les recoins ombragés. La lumière du soleil n'aidait guère à chasser le froid, et le temps expliquait l'absence d'herbe. Les brins devaient s'être rétractés dans leurs trous, attendant le soulagement du temps printanier. Dalinar resserra sa cape contre lui, ce qui poussa l'un de ses compagnons à l'imiter.
« Saleté de saison !» marmonna l'homme. « Combien de temps est-ce qu'elle va durer? Ça fait déjà 8 semaines. »«
8 semaines. 40 jours d'hiver à la suite. » C'était rare. Malgré le froid, les trois autres soldats semblaient peu concentrés sur leurs devoirs. L'un d'eux somnolait même.
« Restez vigilants !» les réprimanda Dalinar.
Ils le regardèrent, et celui qui s'assoupissait se réveilla en clignant des yeux. Tous trois semblaient incrédules. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux roux, lui jeta un regard mauvais.
« Et c'est toi qui dis ça, Lef ?»
Dalinar ravala une répartie. Sous les traits de qui le voyait-il ? L'air froid faisait fumer son haleine, et il entendait derrière lui des bruits métalliques provenant des hommes qui travaillaient aux forges et aux enclumes en contrebas. Les portes de la forteresse étaient closes, et des hommes étaient postés autour des archers sur la gauche et la droite. Ils étaient en guerre, mais monter la garde demeurait une corvée ennuyeuse. Il fallait que des soldats soient très bien entraînés pour qu'ils parviennent à rester vigilants des heures d'affilée. C'était peut-être pour cette raison qu'il y avait tant de soldats ici. Si la qualité des yeux chargés de monter la garde ne pouvait être assurée, la quantité compenserait. Cependant, Dalinar possédait un avantage. Les visions ne lui montraient jamais des épisodes de paix et de désœuvrement. Elles le jetaient dans des moments de conflit et de changement, des tournants. Ce fut ainsi que, malgré la présence de dizaines d'autres yeux attentifs, il fut le premier à le voir.
« Là-bas » dit-il en se penchant par-dessus le bord du rempart de pierre brute. « Qu'est-ce que c'est ?»
L'homme roux leva la main pour s'abriter les yeux.
« Rien, une ombre. »«
Non,
elle bouge, » dit l'un des autres. « On dirait des gens qui marchent vers nous. »
Le cœur de Dalinar se mit à cogner d'anticipation, tandis que le roux donnait l'alerte. D'autres archers se précipitèrent sur le rempart, garnissant leur arc d'une corde. Des soldats se rassemblaient dans la cour rougeâtre en contrebas. Tout était bâti de la même pierre rouge, et Dalinar surprit l'un des hommes à surnommer l'endroit « Donjon de rouge fièvre ». Il n'avait jamais entendu ce terme. Des éclaireurs à cheval quittèrent le donjon au galop. Pourquoi n'en avait-il pas déjà envoyé ?
« Il doit s'agir de la force de défense arrière, » marmonna l'un des soldats. « Ils n'ont pas pu traverser nos lignes, pas avec les radieux en train de se battre. »«
Les radieux ?» Dalinar s'approcha pour écouter, mais l'homme lui lança un regard mauvais et se détourna. Qui que puisse être Dalinar, les autres ne l'aimaient pas beaucoup. Apparemment, ce donjon était une position de repli derrière les premières lignes d'une guerre. Donc, soit les soldats qui approchaient étaient amicaux, soit l'ennemi avait franchi la ligne et envoyé une unité avancée pour assiéger le donjon. Dans ce cas, ceux du donjon étaient des réservistes, ce qui expliquait sans doute qu'on ne leur ait laissé que quelques chevaux. Malgré tout, ils auraient dû avoir envoyé des éclaireurs à cheval. Quand les éclaireurs regagnèrent enfin le donjon au galop, ils portaient des drapeaux blancs. Dalinar jeta un coup d'œil à ses compagnons et ses soupçons se confirmèrent lorsqu'il les vit se détendre. S'ils portaient le blanc, ils étaient amicaux. Mais l'aurait-on envoyé ici si les choses étaient si simples ? Si tout ça ne se passait réellement que dans sa tête, fabriquerait-il une vision simple et ennuyeuse alors qu'il ne l'avait jamais fait ?
« Nous devons rester vigilants au cas où ce serait un piège, » déclara-t-il. « Que quelqu'un aille demander ce qu'ont vu ces éclaireurs. N'ont-ils identifié que des bannières ? Où ont-ils pu approcher ? »
Les autres soldats, y compris certains des archers qui occupaient à présent le haut du rempart, lui lancèrent des regards étranges. Dalinar jura tout bas et jeta des coups d'œil en arrière à la force encore indistincte qui approchait. Il éprouvait une intuition qui ne présageait rien de bon. Ignorant les regards, il souleva sa lance et descendit en courant la passerelle du haut du rempart pour atteindre un escalier. Il était construit en zigzag et descendait directement le haut mur, sans garde-fou. Il s'était déjà trouvé sur ce genre de fortification et savait comment concentrer son regard sur les marches pour éviter le vertige. Il parvint en bas et, la lance reposant sur l'épaule, il entreprit de trouver un responsable. Les bâtiments du donjon de Rouge Fièvre étaient massifs et strictement fonctionnels, construits les uns contre les autres le long des parois rocheuses de la crevasse naturelle. La plupart étaient surmontées de récoltes-pluies carrées. Si elles disposaient de bonnes réserves de nourriture, ou, avec un peu de chance, d'un spiricante, une telle fortification pouvait résister à un siège pendant des années. Il ne connaissait pas les insignes de rang, mais il reconnut un officier lorsqu'il en vit un, vêtu d'une cape rouge sang, qui se tenait en compagnie d'un groupe de soldats de la garde d'honneur. Il ne portait pas de maille, rien qu'un plastron de bronze luisant par-dessus du cuir. et il s'entretenait avec un des éclaireurs. Dalinar pressa le pas. Alors seulement, il vit que les yeux de l'homme étaient marron foncé. Il en resta stupéfait d'incrédulité. Ceux qui entouraient cet homme le traitaient comme un clarissime.
« L'ordre de garde-pierre, milord !» disait l'éclaireur toujours à cheval, « ainsi qu'un grand nombre de marchevents, tous à pied. »«
Mais pourquoi ?» demanda l'officier sombre Iris. « Pourquoi les radieux viennent-ils ici ? Ils devraient être en train de combattre les démons en première ligne. »«
Milord, » dit l'éclaireur, « nous avons reçu l'ordre de revenir dès que nous les aurions identifiés. »«
Eh bien, retournez découvrir pourquoi ils sont ici !» hurla l'officier, ce qui fit tressaillir l'éclaireur, qui se détourna pour s'éloigner.
Les radieux. Ils étaient généralement liés aux visions de Dalinar d'une manière ou d'une autre. Quand l'officier entreprit de donner des ordres à ses serviteurs, Dalinar suivit l'éclaireur en direction du mur. Les hommes s'y rassemblaient près des meurtrières pour regarder en direction des plaines. Comme ceux d'en haut, ceux-là portaient des uniformes disparates qui semblaient rapiécés. Sans être négligés, ils portaient de toute évidence des tenues de seconde main. L'éclaireur franchit une porte à cheval tandis que Dalinar pénétrait dans l'ombre du mur immense et s'approchait de l'arrière d'un groupe de soldats.
« Que se passe-t-il » demanda-t-il.
« Les radieux, » dit l'un des hommes. « Ils se sont mis à courir. »«
C'est presque comme s'ils allaient attaquer, » dit un autre.
Il gloussa de rire tant l'idée semblait grotesque, mais il y avait une nuance d'incertitude dans sa voix.
« Quoi ?» se dit Dalinar, inquiet. « Laissez-moi passer. »
À sa grande surprise, les hommes s'écartèrent. Tandis que Dalinar se frayait un chemin parmi eux, il perçut leur confusion. Il avait donné l'ordre avec l'autorité d'un haut prince et d'un paliris, et ils avaient obéi par réflexe. Maintenant qu'ils le voyaient, ils hésitaient. Qu'est-ce qui prenait à ce simple garde de leur donner des ordres ? Il ne leur laissa pas l'occasion de l'interroger davantage. Il grimpa sur la plateforme située contre le mur, où une meurtrière donnait sur la plaine. Elle était trop petite pour qu'un homme s'y faufile, mais assez large pour permettre à des archers de tirer. À travers elle, Dalinar vit que les soldats en approche avaient formé une ligne distincte. Des hommes et des femmes en cuirasses d'éclat luisantes étaient en train de charger. L'éclaireur s'arrêta et les regarda faire. Ils couraient épaule contre épaule, tous parfaitement alignés, comme une vague cristalline. Lorsqu'ils approchèrent, Dalinar s'aperçut que leur cuirasse n'était pas peinte, mais qu'elle brillait d'une lueur bleue ou ambrée au niveau des jointures et des glyphes situés à l'avant, comme chez d'autres radieux qu'il avait vus dans ses visions.
« Ils n'ont pas dégainé leur lame d'éclat, » dit Dalinar. « C'est bon signe. »
À l'extérieur, l'éclaireur fit reculer son cheval. Il semblait y avoir deux bonnes centaines de porte-éclats là-dehors. Aletkar possédait une vingtaine de lames, Jacques et Ved un nombre similaire. Si l'on additionnait toutes les autres dans le reste du monde, il y en aurait peut-être assez pour égaler les deux puissants royaumes vorins, ce qui signifiait, pour autant qu'ils le sachent, qu'il y avait moins de 100 lames au total dans le monde entier. Et il voyait ici 200 porte-éclats rassemblés dans la même armée. C'était stupéfiant.
Les radieux ralentirent, se mirent à courir plus lentement, puis à marcher. Les soldats se turent autour de Dalinar.
Les radieux de tête s'arrêtèrent en rang, immobiles. Soudain, d'autres se mirent à tomber du ciel. Ils heurtèrent le sol dans un craquement de pierre, dégageant des volutes de fulgiflammes. Tout cela luisait d'un éclat bleu. Bientôt, il y eut dans les 300 radieux sur le terrain. Ils se mirent à invoquer leurs lames. Les armes apparurent dans leurs mains. Tel un brouillard qui se formait et se condensait, le tout en silence. Leur visière était baissée.
« Si c'était bon signe qu'ils chargent sans leur épée, » murmura l'un des hommes près de Dalinar, « alors qu'est-ce que ça signifie ?»
Un soupçon commença à naître chez Dalinar. Un sentiment d'horreur, l'intuition de savoir ce que cette vision s'apprêtait peut-être à lui montrer. Enfin, l'éclaireur, perturbé, fit faire demi-tour à son cheval et regagna le donjon au galop, hurlant pour qu'on lui ouvre la porte, comme si un peu de pierre et de bois pouvait fournir une protection contre des centaines de porte-éclats. Un seul homme, muni d'une cuirasse et d'une lame, représentait presque une armée à lui seul, et c'était sans compter sur les étranges pouvoirs que possédaient ces gens. Les soldats ouvrirent la poterne pour l'éclaireur. Sur un coup de tête, Dalinar bondit à terre et fonça vers l'ouverture. Derrière, l'officier qu'il avait vu un peu plus tôt dégageait un chemin pour approcher de la meurtrière. Dalinar atteignit la porte ouverte et s'y précipita juste avant que l'éclaireur ne fonce de nouveau dans la cour. Des hommes interpellèrent Dalinar, terrifié. Il les ignora et se mit à courir vers la plaine. Le vaste mur droit s'étendait au-dessus de lui, comme une route menant au soleil lui-même. Les radieux étaient toujours lointains, même s'ils s'étaient arrêtés à porter des arcs. Fasciné par le spectacle de ces splendides silhouettes, Dalinar ralentit, puis s'arrêta à une trentaine de mètres. Un chevalier s'avança devant ses compagnons, vêtu d'une cape éclatante d'un bleu soutenu. Sa lame d'éclat d'acier ondulé possédait des gravures complexes en son milieu. Il la garda un instant tendue vers le donjon. Puis il la planta, pointe la première, dans la plaine rocheuse. Dalinar cligna des yeux. Le porte-éclat ôta son casque, dévoilant un visage séduisant aux cheveux blonds et à la peau blême, aussi clair que celle d'un chinove. Il jeta le casque par terre près de sa lame. Le casque roula légèrement tandis que le porte-éclat serrait les poings dans ses gantelets, les bras le long du corps. Il ouvrit grand ses paumes, et les gantelets tombèrent sur le sol rocheux. Il se retourna tandis que sa cuirasse d'éclat se dégageait de son corps, plastrons et jambières glissant d'eux-mêmes. Il portait en dessous un uniforme bleu froissé. Il retira ses solerets en forme de bottes et continua à s'éloigner, après avoir abandonné à terre sa cuirasse et sa lame d'éclat, les trésors les plus précieux que tout homme puisse posséder, comme s'il s'agissait de déchets. Les autres se mirent à l'imiter. Des centaines d'hommes et de femmes qui plantaient des lames d'éclat dans la pierre, puis ôtaient leurs cuirasses. Le bruit du métal heurtant la pierre se mit à évoquer la pluie, puis l'orage. Dalinar se surprit à courir vers l'avant. La porte s'ouvrit derrière lui et quelques soldats curieux quittèrent le donjon. Dalinar atteignit les lames d'éclat. Elles poussaient de la pierre comme des arbres d'argent scintillants. Une forêt d'armes. Elle luisait doucement comme sa propre lame ne l'avait jamais fait. Mais, tandis qu'il se précipitait parmi elles, leur éclat commença à s'estomper. Une terrible sensation s'empara de lui. Un sentiment d'immense tragédie, de douleur et de trahison. Il s'arrêta sur place, souffle coupé, main sur la poitrine. Que se passait-il? Quelle était cette affreuse impression, ce hurlement qu'il aurait juré quasiment pouvoir entendre? Les radieux. Il s'éloignait des armes qu'il venait d'abandonner. Ils semblaient tous être des individus à présent, chacun marchant seul malgré la foule. Dalinar se précipita à leur suite, trébuchant sur des plastrons et des fragments d'armure abandonnés. Il finit par s'en dégager. « Attendez !» leur cria-t-il. Aucun ne se retourna. Il voyait à présent les autres au loin. Une foule de soldats qui ne portaient pas de cuirasse et qui attendaient le retour des radieux. Qui étaient-ils et pourquoi ne s'étaient-ils pas avancés? Dalinar rattrapa les radieux. Ils ne marchaient pas très vite et en saisit un par le bras. L'homme se retourna. Sa peau était brun clair et ses cheveux noirs comme ceux d'un aléti. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle, d'une pâleur anormale en réalité. Les iris étaient quasiment blancs. « Je vous en prie, » supplia Dalinar. « Dites-moi pourquoi vous faites ça. » L'ancien porte-éclat dégagea son bras et continua à s'éloigner. Dalinar jura puis se mit à courir au milieu des porte-éclats. Ils étaient de toutes espèces et de toutes nationalités. Certains possédaient les sourcils blancs des Thaïlènes, d'autres la peau marbrée des Sélayans. Ils marchaient en regardant droit devant eux, sans se parler. D'un pas lent mais résolu.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi? Hurla Dalinar. C'est bien ça, n'est-ce pas? Le jour de la félonie, celui où vous avez trahi l'humanité? Mais pourquoi?
Aucun ne répondit, comme s'il n'existait pas. Les gens parlaient de trahison, du jour où les chevaliers radieux avaient tourné le dos aux autres hommes. Que combattaient-ils et pourquoi avaient-ils cessé? Ils ont mentionné deux ordres de chevaliers, songea-t-il, mais il y avait 10 ordres. Où étaient les 8 autres?
Dalinard tomba à genoux au milieu de cet océan d'individus au visage grave.
« S'il vous plaît, il faut que je sache. » Près de lui, plusieurs des soldats du donjon avaient atteint les lames d'éclat, mais, au lieu de poursuivre les radieux, ces hommes dégageaient prudemment les lames. Quelques officiers sortirent du donjon en criant l'ordre de poser les lames. Ils furent bientôt dépassés en nombre par des hommes qui surgirent des portes latérales pour se précipiter vers les armes.
« Ce sont les premiers, » dit une voix. Dalinard leva la tête pour voir que l'un des chevaliers s'était arrêté près de lui.
C'était l'homme qui semblait allaiti. Il observa par-dessus son épaule la foule rassemblée autour des lames. Des hommes s'étaient mis à hurler les uns sur les autres, chacun s'efforçant d'atteindre une lame avant que toute ne soit prise.
« Ce sont les premiers, » dit le radieux en se tournant vers Dalinard.
Celui-ci reconnut la tonalité grave de cette voix. C'était celle qui lui parlait toujours dans ses visions.
« C'étaient les premiers et aussi les derniers. »
« Est-ce que c'est le jour de la félonie ?»
s'enquit Dalinard.
« Ces événements s'inscriront dans l'histoire, » répondit le radieux. « Ils seront tristement célèbres. Vous donnerez beaucoup de noms à ce qui s'est passé ici. »«
Mais pourquoi ?» insista Dalinard. « Je vous en prie, pourquoi ont-ils abandonné leur tâche ?»
La silhouette sembla l'étudier.
« Je vous ai dit que je ne pouvais guère vous aider. La nuit des tourments viendra, ainsi que la grande désolation, la tempête éternelle. »«
Alors répondez à mes questions !» s'écria Dalinard.
« Lisez le livre, unissez-les. »«
Le livre ? La voix des rois ?»
La silhouette se retourna et s'éloigna de lui pour rejoindre les autres radieux qui traversaient la plaine rocheuse en direction de lieux inconnus. Dalinard regarda derrière lui la mêlée de soldats qui se ruaient sur les lames. Beaucoup avaient déjà été prises. Il n'y en avait pas assez pour tous et certains avaient commencé à brandir la leur, s'en servant pour repousser ceux qui approchaient trop. Il vit un officier hurlant muni d'une lame attaqué par 2 hommes derrière lui. Presque toute la lumière avait disparu à l'intérieur des armes. La mort de cet officier poussa les autres à s'enhardir. D'autres escarmouches éclatèrent, des hommes s'efforçant d'attaquer ceux qui possédaient les lames dans l'espoir de s'en procurer une. Des yeux se mirent à brûler, hurlements, cris, morts. Dalinard les regarda jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ses appartements, attaché à son fauteuil. Rénarine et Adeline le regardaient non loin de là, l'air tendu. Dalinard cligna des yeux, écoutant sur le toit la pluie de la tempête majeure en train de faiblir.
« Me revoilà, » dit-il à ses fils. « Vous pouvez vous calmer. »
Adeline l'aida à détacher les cordes tandis que Rénarine se levait pour aller lui chercher une coupe de vin orange. Une fois Dalinard libéré, Adeline resta en retrait. Le jeune homme croisa les bras. Rénarine réapparut, le visage blême. Il semblait avoir une de ces crises de faiblesse. En effet, ses jambes flageolaient. Dès que Dalinard prit la coupe, le jeune homme s'assit dans un fauteuil et posa la tête sur ses mains. Dalinard but une gorgée de ce vin doux. Il avait déjà vu des guerres dans ses visions. Il avait vu des morts et des monstres, des magnécoques et des cauchemars. Et pourtant, celle-ci le dérangeait étrangement plus que toutes les autres. Sa main tremblait lorsqu'il leva la coupe pour une deuxième gorgée. Adeline le regardait toujours.
« J'offre donc un spectacle si terrible ?» demanda Dalinard.
« Le charabia que vous parlez est perturbant, père, » intervint Rénarine. « Étrange, mystérieux, tordu, comme un bâtiment de bois incliné par le vent. »
« Vous vous débattez, » répondit Adeline. « Vous avez failli renverser le fauteuil. J'ai dû le maintenir en place jusqu'à ce que vous vous immobilisiez. »
Dalinard se leva et soupira tout en allant remplir sa coupe.
« Et tu estimes toujours que je n'ai pas besoin d'abdiquer ?»«
Vos crises sont maîtrisables, » répondit Adeline, qui semblait cependant perturbée. « Mon intention n'a jamais était de vous faire abdiquer. Simplement, je ne voulais pas que vous vous reposiez sur des illusions pour prendre des décisions concernant l'avenir de notre maison. Tant que vous acceptez que ce que vous voyez n'est pas réel, nous pouvons continuer. Vous n'avez aucune raison de renoncer à votre place. »
Dalinar se versa du vin. Il regarda vers l'est, vers le mur, à l'opposé d'Adoline et de Rénarine.
« Je n'accepte pas que ce que je vois ne soit pas réel. »«
Quoi ?»
dit Adoline. « Mais je croyais vous avoir convaincu. »«
J'accepte le fait de ne plus être fiable, » répondit Dalinar, « et qu'il y ait une possibilité que je sois en train de perdre la tête. »« J'accepte qu'il soit en train de m'arriver quelque chose. »
Il se retourna.
« Quand j'ai commencé à avoir ces visions, j'ai cru qu'elles provenaient du Tout-Puissant. » Tu m'as convaincu que mon jugement avait peut-être été trop hâtif. Je n'en sais pas assez pour me fier à elle. Il se peut que je sois fou, ou qu'elle soit surnaturelle sans provenir du Tout-Puissant.
Comment serait-ce possible ? Demanda Adoline, songeur.
L'ancienne magie ?
Dit doucement Rénarine, toujours assis.
Dalinar hocha la tête.
Quoi ?
Dit Adoline avec insistance. L'ancienne magie est un mythe.
Malheureusement, non, dit Dalinar, avant de boire une autre gorgée de vin frais. Je le sais avec certitude.
Père, dit Rénarine, pour que l'ancienne magie vous ait affecté, il faudrait que vous soyez parti à l'ouest à sa recherche, n'est-ce pas?
Oui, répondit-il, honteux.
L'espace vide de sa mémoire où son épouse avait autrefois existé ne lui avait jamais semblé aussi flagrant qu'en cet instant. Il l'ignorait généralement, à raison. Elle avait complètement disparu, et il lui était parfois difficile de se rappeler qu'il avait bel et bien été marié.
« Ces visions ne sont pas cohérentes avec ce que j'ai compris au sujet de la veille nuit, »
dit Rénarine. « La plupart la considèrent simplement comme une sorte de spren puissant. »
Une fois qu'on est allé la trouver et qu'on a reçu sa récompense et sa malédiction, elle est censée vous laisser tranquille. Quand y êtes-vous allé ?
Ça remonte à de nombreuses années maintenant, répondit Dalinar.
Dans ce cas, ce n'est sans doute pas dû à son influence,
dit Rénarine.
Je suis d'accord, dit Dalinar.
Mais qu'avez-vous demandé ?
Dit Adoline, songeur.
« Ma malédiction et ma faveur n'appartiennent qu'à moi, mon fils, » répondit Dalinar. « Les détails ne sont pas importants. »«
Mais je suis d'accord avec Rénarine, » l'interrompit Dalinar. « Ce n'est sans doute pas la veille nuit. »«
D'accord, très bien. Mais pourquoi aborder le sujet ?»«
Parce que, Adoline, » répondit Dalinar, exaspéré, « je ne sais pas ce qui m'arrive. » Ces visions semblent beaucoup trop détaillées pour être le produit de mon imagination, mais tes arguments me donnent à réfléchir. Il se peut que je me trompe. Ou alors c'est toi qui te trompes, et il pourrait s'agir du Tout-Puissant. Ou encore de quelque chose de totalement différent. Nous n'en savons rien, et c'est pourquoi il est dangereux que je conserve mon autorité.
Eh bien, ce que je disais reste valable, s'obstina Adoline. Nous pouvons le maîtriser.
« Non, nous ne pouvons pas, » répondit Dalinar. « Ce n'est pas parce que ça ne s'est produit qu'au cours des tempêtes majeures par le passé, que ça ne peut pas s'étendre à d'autres périodes troubles. Et si j'étais frappé d'une crise sur le champ de bataille ?»
C'était la raison même pour laquelle il ne laissait pas Rénarine partir au combat.
« Si ça se produit, » dit Adoline, « nous allons nous en occuper. Pour l'instant, nous pourrions simplement ignorer... »
Dalinar leva la main.
« Ignorer ? Je ne peux pas ignorer quelque chose de semblable. Les visions, le livre, ce que je ressens, ils me transforment tout entier. Comment puis-je gouverner si je ne me fie pas à ma conscience ? Si je reste au prince, j'essaierai d'anticiper chacune de mes propres décisions. Soit je décide de me faire confiance, soit je me retire. L'idée d'une situation intermédiaire m'est insupportable. »
Le silence tomba dans la pièce. « Alors, qu'est-ce que nous faisons ? » demanda Adoline.
Nous faisons un choix, dit Dalinar. Moi, j'en fais un.
Vous retirez ou continuez à prêter attention à ces illusions, cracha Adeline. D'une manière ou d'une autre, nous les laissons nous gouverner.
Et tu as une meilleure solution ? Demanda Dalinar d'une voix insistante. Tu as été rapide à te plaindre, Adeline, ce qui semble une habitude chez toi. Mais je ne t'ai pas vu proposer d'alternative valable.
Je vous en ai proposé une, dit Adeline. Ignorez les visions et passez à autre chose.
J'ai parlé de solutions valables.
Ils se regardèrent fixement. Dalinar luttait pour maîtriser sa colère. De bien des façons, Adeline et lui se ressemblaient trop. Ils se comprenaient mutuellement, ce qui leur permettait de toucher les points les plus sensibles.
« Eh bien, dit Rénarine, et si nous prouvions que les visions sont réelles ou non ?»
Dalinar se tourna vers lui.
« Quoi ?»«
Vous dites que ces rêves sont détaillés, dit Rénarine, qui se pencha en avant avec les mains jointes devant lui. « Que voyez-vous exactement ?»
Dalinar hésita, puis avala d'un trait le reste de son vin. Pour une fois, il regretta que ce ne soit pas un vin violet enivrant plutôt qu'un vin orange.
Les visions concernent souvent les chevaliers radieux. À la fin de chaque crise, quelqu'un, l'un des héros, je crois, vient à moi et m'ordonne d'unir les hauts princes d'Aletkar.
Le silence retomba. Adeline semblait perturbée. Rénarine restait simplement assis en silence.
« Aujourd'hui, j'ai vu le jour de la félonie, » poursuivit Dalinar. « Les radieux ont abandonné leurs éclats et se sont enfuis. Les cuirasses et les lames perdaient étrangement leur éclat une fois abandonnés. C'était un détail très curieux à voir. »
Il regarda Adeline.
« Si ces visions sont des illusions, alors je suis nettement plus intelligent que je ne croyais l'être autrefois. »
« Est-ce que vous vous rappelez des détails que nous pourrions vérifier ?» demanda Rénarine. « Des noms, des lieux, des événements dont on puisse retrouver la trace dans l'histoire. »
« La dernière concernait un endroit baptisé Donjon de Rouge Fièvre, » dit Dalinar.
« Je n'en ai jamais entendu parler, » répondit Adeline.
« Le Donjon de Rouge Fièvre, » répéta Dalinar. « Dans ma vision... Une guerre se déroulait tout près de là. Les radieux se battaient jusque-là aux premières lignes. Ils se sont retirés dans cette forteresse, puis y ont abandonné leurs éclats.
« Peut-être que nous pourrions trouver quelque chose dans les textes historiques, » dit Rénarine. « La preuve que soit ce donjon a bien existé, soit les radieux n'ont pas fait ce que vous les avez vus faire. Alors nous le saurions, n'est-ce pas ? Si les rêves sont des illusions, ou la vérité ?»
Dalinar se surprit à hocher la tête. L'idée de prouver qu'elles étaient réelles ne l'avait jamais traversée, en partie parce qu'il avait supposé dès le départ que c'était le cas. Lorsqu'il avait commencé à s'interroger, il avait plutôt eu tendance à garder secrète la nature des visions. Mais s'il savait qu'il assistait à des événements réels, eh bien, voilà qui écarterait au moins la possibilité de la folie. Ce qui ne résoudrait pas tout, mais l'aiderait beaucoup.
« Je n'en sais rien. » dit Adeline, plus sceptique. « Père, vous parlez d'une époque datant d'avant la hiérocratie. Est-ce que nous parviendrons à trouver quoi que ce soit dans les textes historiques ?»«
Il en existe qui datent de l'époque où vivaient les radieux ?» dit Rénarine.
« Ça ne remonte pas aussi loin que les jours obscurs ou les âges héraldiques.
Nous pourrions demander à Jasna.
N'est-ce pas le genre de choses qu'elle fait, en tant que vériste italienne ?»
Dalinar regarda Adeline. Je crois que ça mérite un essai, mon fils.
Peut-être, répondit Adeline, mais nous ne pouvons pas considérer comme preuve l'existence d'un seul endroit. Vous pourriez avoir entendu parler de ce donjon de Rouge Fièvre et l'avoir par conséquent intégré.
Eh bien, dit Rénarine, c'est peut-être vrai, mais si ce que voit Père n'est que des illusions, nous parviendrons bien à prouver que certaines parties sont fausses. Il me semble impossible que chaque détail qu'il imagine provienne d'une histoire ou d'un texte historique. Certains aspects des illusions devraient bien être purement imaginaires.
Adeline hocha lentement la tête. « Je...
Tu as raison, Rénarine. Oui, c'est un bon plan.
Il faut faire venir l'une de mes scribes, dit Dalinar, afin que je puisse dicter la vision que je viens d'avoir tant qu'elle est bien claire dans mon esprit.
Oui, répondit Rénarine. Plus nous aurons de détails, plus il sera facile de prouver ou de réfuter la véracité des visions.
Dalinar grimaça, reposa sa coupe et s'approcha des deux autres. Il s'assit. D'accord, mais à qui demanderions-nous de prendre la dictée ?
Vous avez un grand nombre de clercs, père, dit Rénarine.
Et toutes sont soit l'épouse, soit la fille de l'un de mes officiers, dit Dalinar.
Comment pouvait-il l'expliquer ? Il lui était déjà assez pénible d'exposer sa faiblesse à ses fils. Si les nouvelles de ce qu'il voyait parvenaient à ses officiers, elles pourraient affaiblir le moral des troupes. Le moment viendrait peut-être de dévoiler ces choses-là à ses hommes, mais il devrait le faire prudemment, et il aurait nettement préféré savoir pour lui-même s'il était fou ou non avant d'approcher les autres.
« Oui, » dit Adeline en hochant la tête, bien que Rénarine semble toujours perplexe. « Je comprends, mais père, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le retour de Jasna. Ça pourrait encore prendre des mois. »
« Je suis d'accord, » dit Dalinar. Il soupira. Il y avait une autre solution.
« Rénarine, envoie un messager chercher ta tante, Navani. »
Adeline se tourna vers Dalinar en haussant les sourcils. « C'est une bonne idée, mais je croyais que vous ne lui faisiez pas confiance. »«
Je lui fais confiance pour tenir parole, » dit Dalinar, résigné. « Et pour garder les secrets. Je lui ai parlé de mon projet d'abdiquer, et elle n'en a soufflé mot à personne. »
Navani était très doué pour garder les secrets, bien plus que les femmes de sa cour. Il leur faisait confiance dans une certaine mesure, mais garder un secret comme celui-ci nécessitait quelqu'un qui prête une extrême attention à ce qu'elle disait et pensait. Ce qui désignait Navani. Elle trouverait sans doute un moyen de le manipuler en utilisant ce savoir, mais au moins le secret serait-il à l'abri de ses hommes.
« Vas-y, Rénarine, » dit Dalinar. Rénarine hocha la tête et se leva. Apparemment remis de sa crise, il se dirigea vers la porte d'un pas assuré. Alors qu'il sortait, Adeline s'approcha de Dalinar.
« Père, que ferez-vous si nous prouvons que j'ai raison et que tout se passe dans votre tête ?»«
Une partie de moi souhaite que ce soit le cas, » répondit Dalinar, regardant la porte se refermer derrière Rénarine. « Je crains la folie, mais elle est au moins quelque chose de familier, quelque chose dont on peut s'occuper. Je te donnerai la principauté, puis j'irai chercher de l'aide à Carbrandt. Mais s'il ne s'agit pas d'illusions, je me retrouve face à une autre décision. Est-ce que j'accepte ou non ce qu'elles me disent ? Il vaudrait peut-être bien mieux pour Aletkar qu'on prouve que je suis fou. Ce serait plus facile, au moins. »
Adeline y réfléchit, le front plissé, la mâchoire crispée. Et Sadeas ? Il semble touché au terme de son enquête. Qu'allons-nous faire ?
Une question légitime. C'était parce que Dalinar se fiait à ses visions liées à Sadeas qu'Adeline et lui avaient commencé à se battre.
Unissez-les. Ce n'était pas qu'un ordre provenant de ses visions. Ça avait été le rêve de Gavilar. Un Aletkar unifié.
Dalinar avait-il laissé ce rêve, associé à la culpabilité d'avoir abandonné son frère,
le pousser à échafauder des justifications surnaturelles pour accomplir la volonté de Gavilar?
Il se sentait hésitant, et il détestait ça.
« Très bien, » dit Dalinar.
« Je te donne la permission d'anticiper le pire au cas où Sadeas agirait contre nous. Prépare nos officiers et rappelle les compagnies envoyées patrouiller à la recherche de bandits. Si Sadeas me dénonce pour avoir tenté de tuer Elokar, nous allons verrouiller notre camp de guerre et nous mettre en état d'alerte. Je ne compte pas le laisser me faire arrêter pour exécution. »
Adeline sembla soulagée.
« Merci, père. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mon fils, » dit Dalinar. « Dès l'instant où Sadeas et moi entrerons en guerre pour de bon, Aletkar, en tant que nation, éclatera. Nos deux principautés sont celles qui soutiennent leur roi, et si nous entrons en conflit, les autres prendront parti ou déclencheront leur propre guerre.
Adeline hocha la tête, mais Dalinar se rassit, perturbé.
« Je suis désolé, songea-t-il à l'intention de la force, quelle qu'elle soit, qui lui envoyait ses visions. Mais je dois faire preuve de sagesse. »
D'une certaine façon, ça lui semblait une deuxième mise à l'épreuve. Les visions lui avaient demandé de faire confiance à sa déesse. Eh bien, il allait voir ce qui se produirait.
Puis ça s'est dissipé, expliqua Dalinar. Ensuite, je me suis retrouvé ici.
Navani leva son calame, l'air pensive. Il n'avait pas fallu longtemps à Dalinar pour retracer la vision. Elle l'avait consigné avec expertise, lui soutirant des détails, sachant quand il fallait le relancer. Elle n'avait pas dit mot quant à l'irrégularité de la requête, ni semblé amusée par son désir de consigner l'une de ses illusions. Elle s'était montrée efficace et méticuleuse. Elle était à présent assise à son secrétaire, cheveux relevés en boucle et retenus par quatre épingles. Sa robe était rouge, assortie à ses lèvres peintes, et ses superbes yeux violets brillaient d'un éclat curieux.
« Père des tempêtes !» songea Dalinar. « Qu'elle est belle !»«
Alors ?» demanda Adeline. Il se tenait appuyé contre la porte de la pièce. Rénarine s'en était allé recueillir un rapport sur les dégâts provoqués par la tempête majeure. Le garçon avait besoin de pratique pour ce genre d'activité. Navani haussa les sourcils.
« De quoi s'agissait-il, Adeline ?»«
À votre avis, ma tante » demanda-t-il.
« Je n'ai jamais entendu parler de ces lieux ni de ces événements, » répondit Navani.
« Mais je crois que tu ne t'attendais pas à ce que je les connaisse. Ne souhaitais-tu pas que je contacte Jasna ?»«
Oui, » répondit Adeline, « mais vous devez bien en avoir une analyse. »«
Je réserve mon jugement, mon cher, » dit Navani, qui se leva et replia soigneusement le papier en le maintenant en place à l'aide de sa sage main. Elle sourit, s'approcha d'Adeline et lui tapota l'épaule.
« Voyons ce que dit Jasna avant d'analyser quoi que ce soit, d'accord ?»«
Pourquoi pas ?» répondit Adeline, l'air mécontent.
« J'ai passé un moment à parler à cette jeune femme hier, » lui fit remarquer Navani.
« Danlan, je crois que tu as fait un choix judicieux, elle en a dans la cervelle. »
Adeline s'anima.
« Vous l'appréciez ?»«
Beaucoup, » répondit Navani.
« J'ai aussi découvert qu'elle était friande d'Avramel, tu le savais ?»«
Non, en fait. »
« Parfait. J'aurais détesté faire tout ce travail pour que tu découvres un moyen de lui plaire et découvrir ensuite que tu le savais déjà. J'ai pris la liberté d'en acheter un panier sur mon chemin. Tu le trouveras dans l'antichambre, surveillé par un soldat qui paraissait s'ennuyer. Si tu les lui apportais quand tu lui rendras visite cet après-midi, je crois que tu serais très bien accueilli. »
Adeline hésita. Il savait sans doute que Navani cherchait à l'empêcher de s'inquiéter pour Dalinar, mais il se détendit, puis se mit à sourire.
« Eh bien, ce serait peut-être un changement agréable, compte tenu des événements récents. »«
C'est ce que je me suis dit, » répondit Navani. « Je te suggérerais d'y aller rapidement. Ces Avramels sont parfaitement mûrs. Et puis, je souhaiterais parler à ton père. »
Adeline déposa un baiser affectueux sur la joue de Navani.
« Merci, Mashallah. »
Il lui autorisait certaines choses qu'il n'aurait permises à personne d'autre. En présence de sa tante préférée, il redevenait quasiment un enfant. Le sourire d'Adeline s'élargit lorsqu'il franchit la porte.
Dalinar se surprit à sourire lui aussi. Navani connaissait bien son fils. Son sourire ne dura cependant pas longtemps car il comprit que le départ d'Adeline le laissait seul avec elle. Il se leva.
« Que souhaitiez-vous me demander ?» lui dit-il.
« Je n'ai jamais dit que je voulais vous demander quoi que ce soit, Dalinar, » dit-elle. « Simplement discuter. Nous sommes de la même famille, après tout. Nous ne passons pas assez de temps ensemble. »«
Si vous souhaitez discuter, je vais aller chercher des soldats pour nous tenir compagnie. »
Il jeta un coup d'œil en direction de l'antichambre. Adeline avait refermé la seconde porte tout au bout, l'empêchant ainsi de voir les gardes, et les empêchant de le voir.
« Dalinar, » dit-elle en se dirigeant vers lui. « Ça ne servirait plus à rien que j'ai renvoyé Adeline. Je cherchais un peu d'intimité. »
Il se crispa malgré lui.
« Vous devriez partir à présent. »
« Le faut-il vraiment ?»«
Oui. Les gens vont penser que ce n'est pas convenable. Ils vont parler. »
« Dans ce cas, Vous laissez sous-entendre qu'il pourrait se passer quelque chose qui ne le soit pas, demanda Navani avec une intensité quasiment puérile. Navani, vous êtes ma sœur.
Nous n'avons aucun lien de sang, répliqua-t-elle. Dans certains royaumes, la tradition aurait exigé une union entre nous après la mort de votre frère.
Nous ne sommes pas dans ces pays-là. Nous sommes en Aletkar. Il y a des règles.
Je vois, dit-elle en s'approchant de lui. Et qu'allez-vous faire si je ne pars pas? Appeler à l'aide? Me faire emmener de force?
Navani, dit-il d'un ton las. S'il vous plaît, ne recommencez pas, je suis fatigué.
Parfait. Il me sera peut-être plus facile d'obtenir ce que je veux.
Il ferma les yeux. Je ne peux pas affronter ça maintenant. La vision, la confrontation avec Adeline, ses propres émotions incertaines. Il ne savait plus que faire. Mettre les visions à l'épreuve était une bonne décision, mais il ne parvenait pas à chasser le sentiment de désorientation qu'il éprouvait à force de ne pas savoir comment agir ensuite. Il aimait prendre des décisions et s'y tenir, et il ne pouvait pas le faire cette fois-ci, ce qui l'irritait.
Je vous remercie d'avoir joué les scribes et d'avoir accepté de rester discrète, dit-il en ouvrant les yeux. Mais je dois vraiment vous demander de partir à présent, Navani.
Oh, Dalinar, dit-elle doucement.
Elle était assez proche pour qu'il sente son parfum.
Père des tempêtes, qu'elle était belle. La voir lui remit en mémoire des souvenirs d'une époque depuis longtemps révolue, où il la désirait si ardemment qu'il en était presque venu à détester Gavilar pour avoir gagné son affection.
Ne pouvez-vous pas simplement vous détendre? Lui demanda-t-elle.
Juste un moment.
Les règles.
Tous les autres.
Je ne peux pas être tous les autres, s'exclama Dalinar, d'une voix plus dure qu'il ne le souhaitait. Si j'ignore notre code et notre éthique, qu'est-ce que ça fait de moi, Navani? Les autres hauts princes et pâles iris méritent des reproches pour ce qu'ils ont fait, et je le leur ai fait savoir. Si je renonce à mes principes, je deviens quelque chose de bien pire qu'eux. Un hypocrite.
Elle se figea.
S'il vous plaît, dit-il, crispé par ses émotions, partez. Ne me narguez pas aujourd'hui.
Elle hésita, puis s'éloigna sans un mot.
Elle ne saurait jamais à quel point il désirait qu'elle formule une seule objection de plus. Dans son état, il aurait sans doute été incapable de protester davantage. Une fois la porte fermée, il se laissa tomber dans son fauteuil et expira. Il ferma les yeux.
« Tout-puissant, songea-t-il, je vous en prie, dites-moi simplement ce que je dois faire. »